Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 3 décembre 2015, en direct de Washington. Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Nouvelle fusillade aux États-Unis, 14 morts et 17 blessés hier à San Bernardino en Californie.
En Côte d'Ivoire, au moins 6 soldats ont été tués par des hommes armés et non identifiés près de la frontière avec le Libéria.
Le Cameroun annonce une victoire majeure contre Boko Haram, le groupe terroriste nigérian.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a réaffirmé hier son intention de prendre des mesures contre les saboteurs du processus de paix au Soudan du Sud.
Début de la campagne pour le référendum sur le projet de nouvelle constitution en République centrafricaine.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au moins 14 personnes ont été tuées et 17 blessées hier quand 3 personnes lourdement armées se sont ruées sur un centre social au service de personnes handicapées à San Bernardino, situé à une heure environ de Los Angeles en Californie, et ont commencé à ouvrir le feu. 2 heures plus tard, la police a abattu 2 des suspects dans un quartier proche où des agents avaient vu un véhicule 4x4 utilisé par les auteurs présumés pour s'échapper. Un policier a été blessé dans l'échange de tirs, mais sa vie n'est pas en danger.
Selon Jared Burgoyne, le chef de la police de San Bernardino, les 2 suspects abattus, un homme et une femme vêtus de tenues paramilitaires et armés de fusils d'assaut et de pistolets. D'après le Los Angeles Times, l'homme serait un certain Syed Farouk, citoyen américain qui travaillait pour les services de santé de la ville. Une 3e personne a été vue en train de s'enfuir. Nous ne savons pas si elle était impliquée. Nous l'avons arrêtée, a ajouté M. Burgoyne.
Le chef de la police de San Bernardino a qualifié de terrorisme intérieur l'attaque, mais ne sait pas quel pourrait bien en être le mobile. Les personnes visées participaient à une réunion festive des services de santé, a-t-il dit, ajoutant qu'une dispute a alors éclaté et qu'un des convives a quitté les lieux. Mais il n'a pas précisé si cette personne était impliquée.
Un officiel du FBI sur place n'a voulu ni confirmer ni écarter un éventuel lien avec le terrorisme international. Il a dit que tout dépendrait des conclusions de l'enquête. San Bernardino est situé à 1 heure environ à l'est de Los Angeles. Le président Barack Obama a déploré ces tueries qui se reproduisent aux États-Unis et sont, a-t-il souligné, sans équivalent ailleurs dans le monde. Il y a des mesures que nous pourrions prendre, non pas pour éliminer toutes ces fusillades, mais pour améliorer les chances qu'elles ne se produisent pas avec une telle fréquence, a déclaré M. Obama sur la chaîne CBS.
Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidence, a affirmé dans un tweet qu'elle refusait d'accepter ceci comme normal. « Nous devons agir pour mettre fin à la violence avec les armes à feu immédiatement », a-t-elle ajouté. Donald Trump, le favori chez les Républicains, a déploré la fusillade et fait part de ses pensées et prières pour les victimes et les forces de l'ordre. La tragédie de San Bernardino intervient moins d'une semaine après une fusillade dans un centre de planning familial dans le Colorado qui avait tué 3 personnes et blessé 9 autres. En Côte d'Ivoire, au moins 6 soldats ont été tués par des hommes armés non identifiés. C'est dans une attaque hier contre plusieurs positions de l'armée dans l'ouest, près de la frontière avec le Libéria. Eric Manirakiza.
Des individus armés non identifiés ont attaqué à l'arme lourde des positions de l'armée ivoirienne près d'Ograbo. Selon un habitant joint au téléphone par l'AFP, les échanges de tirs ont duré plusieurs heures. Paul Kofi Kofi, ministre de la Défense, a déploré à la télévision nationale une perte de 6 soldats. Monsieur Kofi a aussi précisé la mort de 4 assaillants dans les échanges de tirs, ainsi que 4 blessés et 6 prisonniers. Il a rassuré les Ivoiriens, affirmant que la situation est sous contrôle. En janvier de cette année, une attaque similaire dans la même zone avait fait 2 morts chez les militaires ivoiriens. Grabo avait déjà été frappé en février 2014 par un assaut qui avait fait au moins 4 morts, dont 3 civils. Le gouvernement ivoirien avait imputé cette attaque à des personnes non identifiées venues du Libéria. Mais Moronvia avait répondu qu'il s'agissait d'un problème purement ivoirien.
En République démocratique du Congo, le dialogue national proposé par le président Kabila n'a pas fait recette auprès de l'opposition. Et maintenant, Kinshasa hausse le ton contre d'éventuels fauteurs de troubles. Le point avec Eddie Isango.
Le procureur général a lancé hier une mise en garde claire aux opposants. Pour Floribert Kabangé-Numbi, les personnalités des tous bords qui appellent la population à descendre dans la rue sont passibles des peines prévues par la loi. Selon lui, ces appels constituent un risque pour la paix publique, faisant allusion aux récentes déclarations de l'Église catholique et des partis politiques opposés au dialogue national. Samedi dernier, le président Kabila a annoncé la tenue de ces forums dont la date n'est pas encore connue. L'opposition refuse d'y participer pour n'est pas tombée dans ce qu'elle qualifie des pièges. Elle accuse les chefs de l'État de vouloir se maintenir à tout prix au pouvoir au terme de son second et dernier mandat. Les opposants demandent la publication rapide d'un calendrier électoral fixant la date de la présidentielle dans les délais prévus par la Constitution.
Lutte contre le terrorisme, le gouvernement camerounais annonce avoir, et je cite, « neutralisé et mis à mort plusieurs centaines de combattants de Boko Haram et libéré 900 otages détenus depuis plusieurs années par le groupe ». C'était au terme d'une opération concertée des forces de défense nigérianes, camerounaises et sous-régionales. Alhaji Gana, l'un des chefs de Boko Haram, a aussi été arrêté à la suite des affrontements aux frontières du Cameroun, du Tchad et du Nigeria, a déclaré le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tiroma Bakari, qui a ajouté
« D'importants stocks d'armement et de munitions, ainsi que des objets de propagande tels que des drapeaux djihadistes, ont été saisis au cours de ces opérations. Des opérations de ratissage d'envergure ont été effectuées permettant la sécurisation de cette zone frontalière sensible à partir de laquelle le groupe terroriste Boko Haram avait pris l'habitude de s'infiltrer sur le territoire camerounais afin d'y commettre divers forfaits. Des moyens colossaux en termes de matériel militaire, de renseignement et d'effectifs ont été mis à contribution par le haut commandement militaire du Cameroun pour obtenir ces résultats dont les bilans impressionnants démontrent une fois de plus la puissance de feu et d'une manière générale le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité.
C'était le ministre camerounais de la communication, Issa Tiroma Bakari. Propos recueillis par notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
Le gouvernement canadien a annoncé mercredi qu'il suspendait immédiatement les expulsions des ressortissants burundais en situation irrégulière en raison de la grave crise politique et des violences qui secouent ce pays africain. Le Canada applique actuellement des sursis semblables pour les ressortissants de certaines régions de Somalie, de la bande de Gaza, de la Syrie, du Mali, de la République centrafricaine, du Soudan du Sud, de la Libye, du Népal et du Yémen. Le Burundi est plongé depuis fin avril dans une grave crise politique dont la communauté internationale craint qu'elle ne débouche sur des massacres de grande ampleur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités militaires américaines précisent qu'il existe des objectifs bien planifiés et très bien ciblés en Irak et en Syrie pour les éléments des forces spéciales qu'elles sont en train de déployer en Irak pour accentuer la pression sur le groupe État islamique. Selon le colonel Steve Warren, cette unité spécialisée sera composée de quelques 100 membres, dont un petit groupe de commandos pour mener, je cite, « des opérations très précises et très chirurgicales ».
La Russie est passée aux attaques personnelles dans la crise qui l'oppose à la Turquie. Moscou accuse directement le président turc et sa famille de profiter de la contrebande de pétrole du groupe État islamique. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le principal consommateur du pétrole volé en Syrie et en Irak s'avère être la Turquie, a dit hier le vice-ministre russe chargé de la défense, Anatoly Antonov. Devant la presse à Moscou, il a montré des images satellites de fils de camions citernes, sans dire comment Recep Tayyip Erdogan est lié à ce trafic. Il a mis en cause nommément le gendre du président turc Berat Albayrak et l'un de ses fils, Bilal. Répondant du tac au tac, M. Erdogan a menacé de représailles si Moscou continuait à propager ses calomnies. Malgré cette guerre des mots, la diplomatie russe a montré un signe d'apaisement en acceptant l'idée d'une rencontre avec les Turcs dans les prochains jours à Belgrade. Une semaine après la destruction d'un bombardier russe par l'aviation turque, les relations entre les deux pays sont des plus tendues. Depuis Paris, le président Barack Obama a rappelé à la Turquie et à la Russie que l'ennemi commun est le groupe État islamique.
Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU a réaffirmé hier son intention de prendre des mesures contre les saboteurs du processus de paix au Soudan du Sud et ceux qui s'en prennent aux civils et attaquent les casques bleus. Samantha Power, la représentante permanente des États-Unis qui préside le Conseil ce mois-ci, a déploré en particulier les retards pris dans la formation du gouvernement de transition prévu par le plan de paix du 26 août. Pour sa part, le chef des forces de maintien de la paix, Hervé Latsous, a parlé de violations répétées du cessez-le-feu par les deux parties, surtout dans l'état d'unité.
Et maintenant, la Minute Éco avec Anastasie Toudièche.
Au Cameroun, l'Afrique verra son tout premier projet de liquéfaction de gaz naturel mené jusqu'au stade de l'exploitation commerciale. Gazprom Marketing and Trading, Gazprom M&T, filiale du géant russe Gazprom, s'est engagé fin novembre à acheter à l'armateur gazier norvégien Golar toute sa production annuelle de gaz liquéfié, soit 1,2 million de tonnes. Sur les 8 premières années d'exploitation, ce gaz liquéfié sera extrait au large de Kribi. Gazprom M&T compte écouler sa production camerounaise en Amérique latine, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Le transporteur aérien Air France KLM a annoncé par la voix de son PDG que la compagnie se donne une dizaine d'années pour faire d'Abidjan une plateforme régionale capable de transporter les passagers dans toute l'Afrique de l'Ouest. Depuis mai dernier, les vols Paris-Abidjan de la compagnie sont passés à 7 fréquences hebdomadaires avec un quatrième vol de son Airbus A380. Première puissance économique de l'Ouest francophone, la Côte d'Ivoire a enregistré depuis 2011 des taux de croissance significatifs. 10,7% en 2012, 9,2% en 2013, 8,5% en 2014 et 9,5% prévu en 2015.
Les sports, Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La CAN des moins de 23 ans se poursuit au Sénégal.
Dans le groupe B, ce mercredi à Mbour, l'Algérie élimine le Mali 2-0. Deuxième défaite pour les Maliens, synonyme de retour à Bamako. La deuxième rencontre opposait le Nigeria à l'Égypte, match nul, 2 buts partout.
On reparle de sex tape de Mathieu Valbuena et surtout de Karim Benzema.
Oui, mise en examen pour complicité dans le chantage à la sex tape exercée sur Mathieu Valbuena. Karim Benzema espère que cette histoire va bien se terminer. C'est ce qu'il a déclaré hier dans une interview. Sur le plan sportif, l'attaquant du Real de Madrid sait qu'un gros doute plane sur sa présence en 2016 au sein des Bleus pour l'Euro organisé en France. Le contrôle judiciaire lui impose ainsi de ne pas entrer en contact avec Mathieu Valbuena.
Sport business, le pactole pour le championnat espagnol.
La Liga espagnole de football a annoncé avoir obtenu au moins 2,65 milliards d'euros sur 3 saisons lors de son appel d'offres pour les droits télévisés de la Liga sur le marché espagnol. En comparaison, le championnat d'Angleterre a signé un contrat astronomique qui lui permettra de toucher 6,9 milliards d'euros entre 2016 et 2019.
Lutte contre le dopage en Italie.
L'agence italienne de lutte contre le dopage a requis 2 ans de suspension à l'encontre de 26 athlètes pour des manquements aux règles du Code mondial antidopage. Parmi ces 26 athlètes se trouve Fabrizio Donato, médaillé de bronze au triple saut aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Andrew Ow, vice-champion du monde de saut en longueur en 2007, ou le perchiste Giuseppe Gibilisco, champion du monde en 2003. Enfin Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Golden State Warriors 116, Charlotte 99, Los Angeles Lakers 108, Washington 104, Phoenix 122, Detroit 127. Philadelphia 87, New York Knicks 99, Toronto 96, Atlanta 86 et enfin Denver 90, Chicago 99.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les résultats provisoires du scrutin législatif sont maintenant connus. Le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, arrive en tête avec 55 sièges, suivi de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, 33 sièges, et d'une surprise de taille, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, que l'on pensait très affaibli, est en troisième position avec 18 sièges. Réaction des Burkinabés recueillis par notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
On ne peut pas parler de logique, d'autant plus que c'est une question électorale. Chacun a choisi au niveau de sa région celui dont il pense qu'il est capable de faire leur affaire. Donc en ce moment, tout le monde ne peut pas quitter le CDP. Beaucoup aussi pensent que le CDP a été un parti pour eux, où ils ne peuvent pas se détacher. Ils pensent que c'est là-bas qu'ils ont de l'avenir, c'est personnel. Et ils se sont battus à l'intérieur. Ils ont toujours des gens qui croient au CDP. Ça, on ne peut pas les faire disparaître. C'est une question qui est fondée et que, bon, il faut accepter cela. Et ça montre quand même que c'est toujours la démocratie.
Vraiment, ces résultats nous surprennent du côté du CDP par rapport à leur challenger MPP et l'UPC. Je trouve qu'ils ont fait un travail parce que ça se démontre à travers les résultats. Et je dis que malgré qu'il y a certains facteurs qui ont empêché à ce qu'ils fassent une bonne campagne, par exemple le gel de leurs comptes de leur parti, si cela était levé, c'est sûr que peut-être ils allaient dépasser les 18. Les moyens les ont limités. Et malgré tout ça, ils ont tenu bon jusqu'à avoir 18 députés. C'est pas simple. Et on s'est dit que vraiment, ils ont toujours des militants qui sont convaincus, qui sont toujours avec eux. Donc, je crois qu'il faut compter toujours avec ce parti, parce que la population s'est exprimée à travers eux. Et dans les différents programmes, ceux du MPP ou de l'UPC, dans leur manœuvre, il faut vraiment tenir compte de ce parti, parce que c'est un autre pan de la population qui s'est exprimée à travers les urnes. Et je crois même que c'est peut-être le coup d'État même encore à amener à ce que cela s'est baissé. C'était le 11 octobre, c'est pas sûr que les CDP n'allaient pas remporter l'Assemblée.
C'est pas étonnant, dans la mesure où la plupart des électeurs sont des analphabètes. Et donc, c'est les images. Et comme ils sont habitués au logo du CDP, du coup, quand ils cherchent le logo qu'ils veulent sur le bulletin, qu'ils ne le trouvent pas, son premier réflexe, c'est le logo qu'ils ont l'habitude de voir, celui du CDP. Et donc, conclusion, c'est normal que le CDP soit à la position qu'ils occupent.
Quand l'électeur va voter déjà son candidat pour les présidentielles, logiquement, derrière pour les législatives, il fait le même choix pour son parti. Moi, je m'attendais à ce que pour les législatives également, le MPP soit en tête et l'UPC également soit en tête. Parce que ça, on voit même dans la tendance au côté présidentiel. Mais la grande surprise vient du CDP justement. La marchande du CDP, c'est parce qu'on les a interdits à faire les présidentielles. Ça veut dire que si le CDP devait prendre part au présidentiel, ça veut dire qu'il y aurait un second tour. Parce que le MPP, c'est pas évident qu'ils auraient eu la majorité déjà. Je me dis également, le CDP, c'est surtout en campagne qu'ils ont eu ça, parce qu'il y a l'image. En campagne, on voit toujours le parti de la Daba. Et donc, comme il a dit, c'était permis, en voyant le CDP, forcément, ils ont voté en fait. À part le CDP, la logique est respectée.
Ben pour moi, c'était un résultat très attendu. Parce que, à la fois, MPP qui est déjà majoritaire, UPC qui vient en deuxième position, mais le CDP, quoi de plus normal? Parce qu'ils ne sont pas à la présidentielle. Mais c'est un parti, quand même, c'est à travers même les campagnes que tout a été joué. Éventuellement, c'était évident, quand même, que le CDP atteint ces niveaux-là.
Dans Washington Forum cette semaine, Roch Kaboré, élu dès le premier tour au Burkina Faso. Après une élection historique qui s'est déroulée dans le calme, l'avenir s'annonce-t-il plus apaisé? La grand-messe mondiale sur le climat, la France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement. Déclarations et négociations, est-ce suffisant pour garantir l'avenir de notre planète? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
La crise burundaise, qui compte beaucoup de morts depuis avril dernier, a retenu l'attention des participants à la clôture du tribunal international sur le Rwanda. Le président de l'association des victimes Ibuka a estimé que si la communauté internationale ne prête pas attention au développement de cette crise, le Burundi pourrait s'attendre au pire. Et les Nations Unies insistent sur un dialogue inclusif. Darusha, notre correspondant Christophe Kourounziza.
Le président de l'association des victimes du génocide rwandais a estimé, quand il s'adressait aux invités au sommet des cérémonies de clôture du tribunal pénal international pour Rwanda, que la communauté internationale n'a pas retenu les leçons apprises au début du génocide. Jean de Dieu Dusingize Mungu a indiqué que des signes évidents dans le début du génocide sont perceptibles dans les violences quotidiennes qui se déroulent au-delà de la Kanyaru, séparant le Burundi du Rwanda.
What is happening in Burundi shows that much is still to be done.
Ce qui se passe au Burundi montre qu'il y a encore beaucoup à faire. Pour nous les rescapés, nous trouvons que les violations du droit international humanitaire au Burundi rappellent le génocide rwandais. C'est comme s'il n'y avait pas de leçons apprises pour prévenir et arrêter ces atrocités. C'est à se demander où se trouve la responsabilité de protéger. Il y en a qui ont opté pour le silence au moment où d'autres parlent comme si c'était pour se dérober de leurs responsabilités. Il ne faut pas que l'histoire se répète pour nous rappeler le temps où la communauté internationale a laissé le Rwanda en pâture à sa tragédie.
It's again the same as we saw when the international community left Rwanda to its tragedy.
Mais pour le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la prévention des génocides et en même temps conseiller spécial de Ban Ki-moon, le nombre de victimes du côté de la population contestataire et du côté des forces de l'ordre devient de plus en plus inquiétant. La solution pour les protagonistes burundais réside dans un dialogue franc et inclusif. Adama Dieng.
Pour moi, la question aujourd'hui, c'est comment arrêter les pertes de vies humaines. Et on a vu qu'il y a des morts dans les deux camps, aussi bien dans le camp des forces de sécurité gouvernementale que dans le camp des contestataires. Donc, il faut que ces gens-là baissent les armes. Et la solution peut être trouvée à travers le dialogue.
Pour le secrétaire général des Nations Unies, la communauté internationale a plusieurs options pour trouver une issue à la crise qui secoue le Burundi depuis bientôt 8 mois. Pour le moment, toutes les parties doivent s'asseoir ensemble autour d'une même table pour trouver une solution à la recrudescence de la violence au Burundi. Christophe Nkurunziza, Arusha, VOA Afrique.
Lancement hier en République centrafricaine de la campagne référendaire. Les Centrafricains sont appelés le 13 décembre à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution du pays de Bangui. Notre correspondant Freeman Sipila.
Le coup d'envoi a été donné mercredi après-midi par Modibo Bachir Walidou, ministre de l'administration du territoire. La campagne officiellement ouverte le 2 décembre sera close 48 heures avant le vote, prévu le 13 décembre prochain. Selon le ministre de l'administration du territoire, toutes les dispositions sont déjà prises pour la réussite de cette campagne.
Nous avons désormais les moyens de battre campagne. Nous avons lancé cette campagne et nous sommes en train pratiquement de réussir tout ce que nous avions prévu. Nous avons lancé la commande des projet de construction a multiplié par 15 000. Nous avons lancé la commande des banderoles, des t-shirts. Nous avons mis en œuvre tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour que nous puissions, dans le laps de temps qui nous est légalement imparti, à partir du 2 jusqu'au 11 à minuit. Donc nous sommes particulièrement dans le délai. Et même quand je dis que nous sommes en retard, en fait nous ne sommes pas vraiment, vraiment en retard. Nous sommes en retard de quelques heures, simplement.
Alors que la campagne vient d'être lancée, l'inquiétude demeure encore, car de nombreux Centrafricains disent ignorer le contenu de cette nouvelle loi fondamentale. Jean-Hugues Bagali, étudiant à l'université de Bangui, juge insignifiante la durée de la campagne.
Moi, particulièrement, je ne connais pas le contenu de cette constitution parce que, en principe, on devait lancer cette campagne-là un mois. Il faudrait que la population ait l'idée sur ce qui est dans cette nouvelle constitution. Parce qu'on ne peut pas aller quand même voter comme ça. Chez nous, on attend toujours au dernier moment pour improviser les choses. Il faudrait que les populations, parce que ça va de leur vie, il faudrait qu'ils soient informés. Qu'est-ce qui est inscrit dans cette constitution? Comme ça, ils vont peut-être voter favorablement ou défavorablement.
Igor Diesquin est journaliste. Il appelle les Centrafricains à adhérer massivement à ce processus.
Le pays a traversé des moments difficiles. Et la seule issue aujourd'hui, ce sont les élections. Et si nous, population, nous sommes appelés à voter et à travers la campagne qui est déjà lancée, nous allons savoir le contenu de ce que nous sommes appelés à voter. Et en tant que Centrafricain, j'appelle tous mes frères Centrafricains à adhérer massivement dans ce processus électoral.
Les ministres résidents commencent aussi à être être déployés à l'intérieur du pays en vue de sensibiliser les populations sur cette nouvelle constitution qui sera soumise à référendum 2 semaines avant la tenue du premier tour des élections présidentielles et législatives. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Nous vous le disions dans nos éditions d'hier, un ancien président guinéen, le général Sékouba Konaté, risque 5 ans de prison aux États-Unis pour contrebande d'espèces, après avoir plaidé coupable ici devant un tribunal. Comment est-ce que la nouvelle a été reçue à Conakry? Sur place, notre correspondant Zakaria Camara.
L'ancien président de la transition guinéenne sur les bancs des accusés aux États-Unis, l'affaire fait grand bruit à Conakry. Sékouba Konaté risque jusqu'à 5 ans de prison, titre guinée7.com. On peut lire aussi Sékouba Konaté arrêté pour fraude sur guinée-matin.com, un autre site guinéen. Et dans les rues de la capitale, le sujet suscite des réactions.
Quand tu fais une chose, il faut tâche de bien le faire. Si tu le fais autrement, de toutes les façons, ça se fera un jour. Donc je me suis dit, l'arrestation ne m'étonne pas parce que je savais que ça, on allait l'arrêter tôt ou tard.
Je ne suis pas content par rapport à son arrestation passée. C'est un parent, il est guinéen, je suis guinéen. Mais quand même, ce qu'il a fait là-bas, si c'est comme ça, il ne doit pas le faire. C'est interdit, c'est là-bas, quoi.
Mais je pense que la justice américaine fera son travail. Et je souhaite qu'elle fasse son travail.
Je veux que la justice soit rendue, qu'il soit puni à la hauteur de la forfaiture qu'il a commise.
Sékouba Konaté est accusé de contrebande d'espèces et de fausses déclarations. Il risque une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Le général guinéen sera situé sur son sort en février 2016. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Poursuite de la conférence de l'ONU sur le climat à Paris, le continent africain qui produit le moins de gaz à effet de serre subit le plus les effets du réchauffement de la planète. Pour un commentaire sur la situation, Arzuma Compaoré, adjoint au Bourget où se déroule la COP21, Ali Haïdar, ministre sénégalais de l'Environnement.
Je me projette en 2100. Tous les scientifiques du monde et les politiques sont autour du seul arbre qui reste sur la planète. Et la question qui se pose en 2100, c'est est-ce qu'on coupe l'arbre tout de suite ou est-ce qu'on attend le COP80?
On va droit dans l'arbre, on va droit dans le mur. Hein.
En tout cas, on va encore reporter les échéances parce que les politiques sont dominées aujourd'hui par une situation de crise sécuritaire et une situation de crise économique qu'ils ne savent pas maîtriser.
L'Afrique et plus particulièrement en fait le secteur agricole est vraiment touché par ces changements climatiques.
Mais l'Afrique dans son ensemble subit la pression du réchauffement climatique. D'abord sur les questions agricoles d'avancée de la mer, de réchauffement, de dérèglement climatique, mais aussi prioritairement sur des questions de corruption. Les multinationales qui aujourd'hui nous vantent les mérites d'un changement d'une COP21. Ces multinationales sont les premiers à venir dans nos pays et à les piller, à piller nos réserves. Si on ne se pose pas les vraies questions et qu'on ne prend pas les bonnes décisions, tout cela ne sera que du théâtre.
Ce sont des inégalités économiques aussi.
Mais bien sûr, elles sont partout les inégalités, vous savez. Vous ne pouvez pas penser que vous allez envoyer des F-16 en Irak, en Libye, en Syrie et ne pas recevoir des ceintures. Ce n'est pas possible. Il faut un monde juste et équitable. Et nous vivrons ensemble dans ce monde juste et équitable, dans lequel les Africains trouveront leur place, le Moyen-Orient trouvera sa place, l'Asie, l'Amérique, l'Occident, tout le monde trouvera sa place, où nous vivrons un monde de terreur ensemble. Mais il n'est pas question qu'il y ait de l'eau douce d'un côté, de l'eau polluée de l'autre, de l'air frais d'un côté, de l'air pollué de l'autre. Ce monde n'est pas viable, il n'est pas durable. C'est dans la justice et l'équité. Et pour l'obtenir, bien sûr, il faut passer par l'éducation, mais l'éducation par les actes concrets. Il faut accompagner ceux qui savent faire au niveau halieutique, au niveau forestier. La solution, elle est là. Il nous faut juste l'appliquer entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Il y a trop de prédation sur la finance. Et bien sûr, ceux qui restent en Afrique, le peu qui reste en Afrique, malheureusement, n'arrivent pas sur le terrain.
C'était Ali Haïdar, ministre sénégalais de l'Environnement, qui sera l'invité de Washington Forum aujourd'hui. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.